Donc effectivement, comme ça a été rappelé, je suis sociologue, donc voilà, personne n'est parfait. Hein. Je suis un peu un des rares ici qui représente peut-être le point de vue sociologique. Alors, je parlerai peut-être dans quelques minutes de la spécificité de ce point de vue sur la question. Et donc je vais parler du cas belge, hein, je vais revenir là-dessus. On a vu déjà hier que la Belgique était peut-être même plus que la France championne du redoublement. Hein, donc on a ce triste record en Belgique. L'intérêt, c'est qu'on a depuis un certain nombre d'années tenté de mener des politiques pour réduire le redoublement en Belgique. Et donc on a un certain recul là-dessus. Et effectivement, moi j'ai travaillé surtout sur les premières mesures menées dans les années 90, comme on dit chez nous. Hein. Et puis aujourd'hui, je terminerai en évoquant aussi le fait que on a d'autres expériences qui sont différentes, donc une seconde génération, je dirais, de réformes visant à lutter contre le redoublement. Donc effectivement, moi, je ne suis pas vraiment un expert du redoublement en tant que tel. Je me suis intéressé au redoublement parce que je trouvais que c'était un cas emblématique de réformes qui avaient du mal à prendre sur le terrain et à être mises en œuvre. C'était plutôt la question du changement institutionnel et de la mise en œuvre des politiques scolaires à contenu pédagogique qui m'intéressait à la base. Et c'est ça qui m'a fait me poser la question du redoublement. Donc voilà, donc je vais revenir peut-être brièvement sur, au fond, pourquoi j'en suis venu à m'intéresser là-dessus. Donc effectivement, au moment où je cherchais un sujet de thèse, aux alentours, enfin, au début des années 2000, il y avait en Belgique ce débat sur la question du redoublement. Et effectivement, je constatais avec un peu d'étonnement, hein, on l'a déjà souligné dans d'autres interventions, qu'il y a un consensus assez large dans la littérature, en éducation, pour dire que le redoublement est effectivement néfaste à plein d'égards. Donc je ne redéveloppe pas tout ça, mais voilà, je voulais comprendre pourquoi, alors qu'il y avait ce consensus si fort, le redoublement demeurait difficile à éradiquer. Et on avait en Belgique, à ce moment-là, le redoublement qui avait été réintroduit, alors qu'il avait été plus ou moins supprimé les années précédentes. Enfin, il n'avait pas été réintroduit stricto sensu. Mais disons qu'il avait, enfin, la réforme qui avait été prise avait été perçue comme une réintroduction du redoublement. Et donc, voilà, je voulais comprendre ce qui se passait, et en même temps, en passant en revue la littérature, je constatais que ce que les collègues en sciences de l'éducation, plutôt, effectivement, disaient, c'est que finalement, ils s'étonnaient aussi de ça, et d'une certaine manière, ils stigmatisaient un petit peu les enseignants en disant: mais enfin, on n'arrête pas de répéter que le redoublement est néfaste, et malgré tout, les enseignants restent attachés. C'est une question de croyances irrationnelles. Enfin, il y avait un parti pris qui consistait à dire, au fond, les enseignants sont soit irrationnels, soit conservateurs. Hein, on a parlé aussi des intérêts corporatistes dans d'autres interventions. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y avait une forme de disqualification du point de vue enseignant et du point de vue du terrain sur la question, qui m'interpellait en tant que sociologue. Et en tant que sociologue qui suis ancré dans une perspective compréhensive weberienne, moi je voulais essayer de comprendre les enseignants, donc partir de leur point de vue et me dire, mais au fond, ils ont malgré tout des raisons, des bonnes raisons de faire ce qu'ils font et de résister. Hein, et donc voilà, je suis parti de ce point de vue-là en me disant: il y a quelque chose à comprendre, et voilà, je veux comprendre pourquoi finalement les enseignants restent attachés au redoublement. Alors, au départ, en termes plus théoriques, je suis parti de l'idée que le redoublement, c'était une institution sociale. Alors, les sociologues définissent une institution ou les institutions sociales comme des contraintes socialement construites qui orientent la manière dont les individus agissent et pensent au quotidien. Donc, donc c'est à la fois des institutions, ça renvoie à la fois à des règles formelles, hein, mais aussi à des évidences partagées, à des manières de penser qui sont naturalisées, qui sont en quelque sorte non questionnées. Et donc, du point de vue de la question du redoublement, ça voulait dire que le redoublement était au fond devenu une sorte de réponse standardisée appliquer à certaines situations qui se posent dans la vie des établissements. En l'occurrence, en fin d'année, quand un élève est en échec, ben, on ne se pose pas trop la question. La réponse classique, c'est de dire « on le fait redoubler ». Et donc, c'était une manière finalement assez habituelle de gérer l'échec en fin d'année. Donc, partant de ce point de vue théorique, je me disais effectivement, ben, ça suppose, si on veut réformer une institution, à la fois de transformer les règles, la régulation du système, mais aussi de transformer les représentations. On a parlé déjà hier pas mal de la question des représentations. Jerry Marcoux a fait un excellent exposé sur cette question. Et donc, au départ, moi, j'étais persuadé que le nœud du problème se situait dans les représentations. Je pense qu'il y a une part du problème qui est située dans la question des représentations enseignantes, mais je pense que ce n'est qu'une partie du problème. Et donc, l'idée, au départ, je pensais que voilà, le redoublement, qui était une solution qui était habituelle, évidente, devait devenir une solution incongrue. Voilà le présupposé duquel j'étais parti dans ma recherche. Et donc, pour ce faire, la stratégie dominante, et celle que je constatais aussi à l'époque, c'était de dire qu'il faut donc convaincre les enseignants. Et on retrouvait cette idée qu'il fallait opposer des croyances profanes à des connaissances expertes. Les chercheurs en éducation démontrent effectivement que le redoublement est néfaste. Il faut convaincre les enseignants, il faut les instruire, il faut leur montrer que c'est le cas, et en leur montrant que c'est le cas, une fois qu'ils sauront, ils seront convaincus, et donc ils abandonneront cette pratique. C'était ça le présupposé. Alors, moi, comme je vous le disais, dans une perspective compréhensive, j'ai essayé d'inverser un peu le point de vue en me disant, oui, d'accord, mais c'est peut-être un petit peu trop simple de penser que la vérité va s'imposer d'elle-même une fois qu'elle apparaîtra dans tout son éclat aux enseignants. Et du coup, j'ai pris au sérieux, d'une certaine manière, les résistances qui s'exprimaient sur le terrain, en me disant que ces résistances avaient quelque chose à nous dire, à nous enseigner. Et qu'au fond, ces enseignants avaient aussi une forme d'expertise, une expertise profane, d'une certaine manière. Et c'est cette expertise profane que j'ai essayé donc de comprendre. En partant de ce point de vue-là, il s'agit de considérer que pour changer, il faut non seulement avoir une stratégie de légitimation cognitive, c'est-à-dire une stratégie qui vise à changer les représentations, mais aussi une stratégie qui vise à construire les conditions de possibilité du changement, les conditions de praticabilité, c'est-à-dire une stratégie de légitimation pragmatique ou fonctionnelle. C'est ce que je vais développer dans la suite de ma présentation. Donc, en termes de principaux résultats, donc effectivement, je vous disais, il y avait cette idée que les enseignants étaient fort résistants au changement, et moi, en rencontrant des enseignants et en discutant avec eux, je me rendais compte que finalement, les enseignants, bon, alors bien sûr, il y en a qui vous disent, oui, le redoublement, c'est utile, c'est important, etc. On peut pas s'en passer. Mais au fond, il n'y avait pas tellement d'attachement au redoublement pour le redoublement. Les enseignants, si vous leur demandez dans l'absolu, est-ce que vous êtes pour ou contre le redoublement? Je pense que la grande majorité vous diront, dans l'absolu, dans un monde idéal, j'aimerais autant que tout le monde réussisse et qu'on n'utilise pas le redoublement, qu'on n'ait pas besoin de cet outil. Le problème, c'est que dans la pratique, les enseignants sont bien forcés de constater qu'ils ont du mal à justement gérer les difficultés scolaires autrement qu'avec cet outil qui est un des seuls à leur disposition en France, en Belgique. Et donc, l'attachement des enseignants était moins un attachement purement idéologique, purement cognitif, qu'un attachement que j'ai qualifié d'attachement pragmatique ou fonctionnel, lié à ce que j'ai appelé des fonctions latentes du redoublement, c'est-à-dire des rôles que le redoublement joue dans le quotidien des classes et des établissements. Donc c'est vrai que quand on parle du redoublement, on parle toujours de l'efficacité pédagogique du redoublement. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas photo. Le redoublement est inefficace pédagogiquement, enfin, de manière relative. C'est-à-dire, on voit bien qu'un élève progresse quand il redouble, mais s'il ne redouble pas et qu'on met en place d'autres dispositifs, il va progresser davantage. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Par contre, le redoublement est très efficace à d'autres égards et d'une certaine manière, il a une efficacité sociale. Il n'a pas une efficacité pour l'élève, pour remédier aux difficultés de l'élève, mais il a une efficacité pour l'enseignant, parce que notamment, il remplit toute une série de fonctions latentes Donc, j'ai distingué dans mes travaux quatre grandes fonctions latentes. Alors, ce n'est pas forcément exhaustif, on peut en imaginer d'autres. C'est celle que j'ai repérée dans le contexte belge. Donc, j'ai parlé d'une fonction latente, par exemple, de gestion de l'hétérogénéité. Effectivement, pour gérer la difficulté, donc en Belgique, là, des travaux avaient montré que la principale difficulté que rencontrent les enseignants dans une classe, c'est de gérer l'hétérogénéité des élèves. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a des élèves de niveaux différents, hein? Et donc le redoublement, c'est une manière de trier, hein, le bon grain de livret d'une certaine manière, et donc de faire en sorte, au fur et à mesure de la scolarité, de l'enseignement secondaire, d'avoir des classes moins hétérogènes. Donc ça, c'était une première grande fonction latente. Une autre fonction latente que j'avais établie, c'était de dire que le redoublement sert aussi aux établissements scolaires, pas seulement aux enseignants, mais aux établissements pour, d'une certaine manière, signaler que dans cet établissement, on ne transige pas avec la qualité de l'enseignement. Hein, parce qu'au fond, il y a en Belgique, et je pense qu'en France, ça doit être vrai aussi, mais encore une croyance assez répandue, là, pour le coup, dans le public plus largement, chez les parents, qu'au fond, si on fait réussir tout le monde, bien, ça veut dire que, d'une certaine manière, on transige sur le niveau, et donc afficher des taux de redoublement, c'est d'une certaine manière envoyer un signal de qualité aux parents. Il y a la question aussi de la régulation de l'ordre scolaire et de la mobilisation des élèves au travail. C'est que les enseignants m'expliquaient que lorsqu'ils avaient été privés du redoublement, lorsqu'on avait purement et simplement introduit le passage automatique de classe, eh bien, ils constataient que pas mal d'élèves, même la plupart des élèves d'après les enseignants, ben, se tournaient un petit peu les pouces pendant l'année parce qu'ils avaient très bien compris que finalement, s'ils travaillent ou pas, c'était pareil. Et donc, les enseignants avaient du mal à les mettre à la tâche, à les mobiliser. Et donc, de ce point de vue-là, le redoublement jouait un peu le rôle d'une menace que les enseignants pouvaient brandir pour pousser les élèves au travail. Et puis, j'avais parlé aussi d'une fonction d'autonomie professionnelle des enseignants, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, le redoublement servait à affirmer le fait que c'est à l'enseignant de décider si l'élève est prêt ou non à progresser dans la scolarité. Et au fond, les priver de cet outil de régulation, c'était d'une certaine manière les déposséder d'une part de leur pouvoir professionnel, hein, et donc au profit d'experts que les enseignants percevaient comme déconnectés des réalités de terrain. Alors... Donc voilà, ici je développais donc cet exemple de redoublement de régulation de l'ordre scolaire. Hein, pourquoi, je vais aller plus vite. Pourquoi le redoublement, pourquoi cette question des fonctions latentes et notamment de la fonction de maintien de l'ordre scolaire se perpétue? C'est parce que si les élèves ont été pendant toute leur scolarité, d'une certaine manière, habitués à fonctionner à la note. Donc ils ont développé un rapport instrumental à la scolarité. Et donc, par exemple, en Belgique, on avait introduit d'abord le redoublement, enfin la suppression du redoublement, au secondaire, dans le secondaire inférieur. Et donc, ces élèves, pendant leur scolarité primaire, ils avaient été habitués à travailler pour des notes, et donc ils avaient développé ce rapport instrumental à la scolarité. Donc il y avait déjà une incohérence en termes de changement, hein, de faire en sorte qu'on développe ça d'abord dans l'enseignement secondaire. Hein. Donc il faut évidemment penser à cet aspect-là, hein, et au fait que les élèves autonomes, des élèves qui sont impliqués dans la tâche pour le plaisir d'apprendre, ben ça ne se développe pas, ça ne naît pas par génération spontanée. Hein, c'est quelque chose, c'est un comportement qui se construit. Et évidemment, si ces élèves ont été habitués à travailler pour des notes, eh bien, ils continueront à le faire. Et du coup, ça expliquait pourquoi le redoublement restait pertinent d'après les enseignants. Voilà, je passe sur les autres exemples, je reviendrai éventuellement là-dessus, hein, mais comme le temps m'est compté. J'en viens au fond à l'idée que, à l'issue de mon travail, ce que j'ai conclu, c'est que finalement, effectivement, cette réforme, première version, avait d'une certaine manière n'avait été plutôt un échec, elle n'avait pas produit les effets escomptés, mais elle avait quand même produit des effets. Et peut-être que le principal effet qu'avait produit cette réforme qui échouait, c'était un effet d'apprentissage politique, c'est-à-dire que les responsables politiques ont aujourd'hui en Belgique bien compris qu'il ne suffisait pas justement de décréter la fin du redoublement pour le faire advenir. Hein. Et donc ça, c'est véritablement une prise de conscience qui a découlé des déconvenues passées. Et donc aujourd'hui, en Belgique, la manière de s'attaquer à la question du redoublement et d'essayer de réduire cette pratique, elle a complètement été transformée. Hein, c'est-à-dire qu'on est parti du principe justement qu'il faut, plutôt que de faire des réformes top-down, hein, très verticales, qui viennent du haut et qui disent aux enseignants comment il faut faire, il faut plutôt essayer de faire émerger des bonnes pratiques, hein, mettre en place justement des alternatives, hein, parce qu'au fond, toutes ces fonctions latentes que je mets en évidence, ça montre bien que le redoublement, sans ces alternatives et sans considérer les fonctions latentes qu'il remplit, eh bien, on n'arrivera pas à construire sa légitimité du point de vue des enseignants. Et donc il faut penser tout ça, et penser tout ça notamment dans les solutions alternatives qu'on essaie de mettre en place. Et donc ça, c'est quelque chose qui a, me semble-t-il, été plus ou moins bien compris. Et notamment, on a un exemple aujourd'hui de l'expérimentation du projet décollage, qui est lancé depuis 2012 et qui consiste à lutter contre l'échec scolaire, lutter contre le redoublement, en développant des pratiques alternatives qui se substituent de manière crédible au maintien ou au redoublement, mais donc afin de montrer au redoublement qu'il y a, enfin aux enseignants qu'il y a des solutions crédibles, hein, les outiller, les accompagner, les former, partir de leurs attentes, de leurs besoins, et donc les encourager à développer des situations, enfin des alternatives qui soient adaptées à leur contexte local, hein, parce que c'est vrai que ça c'était aussi un constat que j'avais fait, c'est qu'au fond, dans chaque établissement, les situations étaient très différenciées, et ce qui peut marcher dans un établissement ne marche pas forcément dans un autre, et donc il faut aussi arrêter d'imaginer qu'il y a une manière unique de faire, et donner au fond peut-être davantage de responsabilité aux acteurs locaux, hein, les professionnaliser de ce point de vue-là, pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur manière de fonctionner qui sera adaptée à leur contexte. Alors, sur le projet décollage, voilà, moi, je n'ai pas travaillé directement sur ce projet, mais j'ai des collègues qui ont fait récemment une première évaluation de parcours de ce projet, qui montre des effets mitigés. Alors, c'est vrai que c'est pas encore la panacée pour, finalement, lutter contre les, enfin pour faire complètement basculer les représentations des enseignants, hein, on voit que il y a moins d'enseignants quand même qui restent convaincus des vertus du redoublement, mais malgré tout il y en a encore. Par contre, là où ce projet est efficace, c'est plutôt pour d'une certaine manière réenchanter le processus de réforme. Hein. Au fond, les enseignants adhère vraiment à cette idée qui consiste à faire une logique plus participative, à les mettre au centre, à partir du terrain, plutôt que d'imposer quelque chose, des décrets qui viennent d'en haut, etc. Et donc là, il y a vraiment un discours très positif de ce point de vue-là. Voilà, donc je conclue sur cette idée que j'ai essayé de développer, c'est que vraiment, pour en finir avec le redoublement, il faut penser véritablement les conditions de recevabilité et de plausibilité du changement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr travailler les représentations, comme Géry Marcoux l'a dit, et je pense qu'il a tout à fait eu raison d'insister là-dessus, mais considérer que, au fond, en convertissant les représentations des enseignants, on aurait fait le chemin, je pense qu'on se trompe, on n'aurait fait que la moitié du chemin, parce qu'on peut très bien avoir des enseignants convaincus que le redoublement est néfaste, mais qui, dans les conditions pratiques d'exercice du métier, sont forcés malgré tout de s'en servir si on ne leur propose pas des alternatives crédibles, Et donc il faut s'attaquer aux mécanismes, aux processus qui font la légitimité pragmatique et fonctionnelle du redoublement, et donc prendre en considération aussi ces fonctions latentes pour établir la légitimité d'une réforme, parce qu'on ne réformera pas le système éducatif sans les acteurs parties prenantes de ce système. Voilà, je vous remercie.
Merci.